Alors, on va continuer à lire des petits extraits de Reugen et puis d'en parler entre nous. Ce que nous avons dit plus haut du processus économique, à savoir que d'un point de vue purement physique, il ne fait que transformer des ressources naturelles de valeur, de basse entropie, en déchets de haute entropie, est donc parfaitement établi. Mais il nous reste à résoudre l'énigme du pourquoi d'un tel processus. Et l'énigme subsistera tant que nous ne verrons pas que le véritable produit économique du processus économique n'est pas un flux matériel de déchets, mais un flux immatériel, la joie de vivre. La joie de vivre, alors c'est traduit, la traduction c'est « the enjoyment of life ». Donc, Reugen apporte ici un regard un peu nouveau. Il dit que le processus économique existe finalement pas par une cause mécanique, mais par une cause psychologique. Oui, c'est que l'homme a envie de se faire plaisir et que donc il met en œuvre tout ça uniquement pour son plaisir. Parce que finalement, il pouvait très bien vivre et continuer à vivre pendant des centaines, des dizaines, voire des millions d'années en étant chasseur, pêcheur, cueilleur. Ça, c'était durable, ça pouvait très bien continuer. Mais il a eu envie de se faire plaisir. Bon, c'est une approche qui est absolument hétérodoxe par rapport à tout ce qu'on nous apprend au niveau du processus économique. On dit que le processus économique est quelque chose de complètement normal, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre des choses que l'homme se soit mis à fabriquer artificiellement.
C'est aussi pour donner de la valeur, pour acheter et vendre de ce qu'il crée, quoi. Parce qu'autrement, il se contenterait uniquement de pêcher et puis de manger son poisson. Mais après, bah, il va créer un filet pour le vendre après. On va lui acheter ce qu'il a créé, vous voyez, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va aller se
procéder. Alors c'est ça la grande question.
Les moyens de production qui a.
C'est ça la grande question. Et c'est ce qu'ont étudié les.
Qui a développé d'ailleurs.
Ce qu'ont étudié notamment les anthropologues, comme Claude Lévi-Strauss, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu la révolution néolithique? Pourquoi? Homo sapiens, une fois que l'évolution de l'homme s'est stabilisée à l'Homo sapiens, Homo sapiens s'est dit comment je vais vivre d'une certaine façon. Et pendant 200 000 ans, il a vécu en étant chasseur, pêcheur, cueilleur. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose, ça a été la révolution néolithique, qui s'est manifestée par un certain nombre de constatations. C'est-à-dire qu'on dit la révolution néolithique, c'est parce que l'homme s'est sédentarisé. La révolution néolithique, c'est parce que l'homme a inventé l'agriculture. Ou parce que l'homme a inventé l'élevage. Mais pourquoi est-ce qu'il a inventé l'agriculture? Pourquoi est-ce qu'il s'est sédentarisé? Est-ce que c'est parce qu'il s'est sédentarisé qu'il y a eu la révolution néolithique? Oui, ça c'est une constatation, alors je vais dire mécaniste. Mais l'explication thermodynamique est. L'explication anthropomorphique, c'est. Reugen nous dit que c'est the enjoyment of life. C'est qu'à un moment, l'homme s'est dit on peut peut-être jouir plus de la vie en faisant autre chose qu'être chasseur, pêcheur, cueilleur. Alors vous dites, le premier qui a ciselé un outil, on arrive à l'âge de pierre, les premières usines de taillage de pierre qui est au Grand Précigny, près de Châteauroux, première usine connue au monde, puisqu'il y avait d'après ce qu'on sait, ce qu'on a pu réunir comme information, il y avait des dizaines, des centaines d'ouvriers qui taillaient des morceaux de pierre pour en faire des outils coupants, des haches, des couteaux, des choses qui ressemblaient un peu à des fourchettes. Et d'ailleurs, quand on visite le musée du Grand Précigny, on a les premiers outils de la civilisation néolithique qui sont visibles comme ça. Donc quelle est la raison pour laquelle on a l'espèce humaine a changé sa façon de vivre? C'est pas inutile de se poser des questions plutôt que de faire que de constater. Donc de ne faire que constater le fait qu'on a créé des usines.
Oui, alors tout ça, ça ne s'est pas fait. Là, tu as une vue un peu mécaniste. Je suis désolé. C'est pas fait d'un. d'un seul coup, quoi. Il n'y a pas eu un moment où l'homme s'est dit.
Non, bien sûr.
Non, mais c'est petit à petit, les transformations se font.
Oui, mais quel est le moteur de...
Je suis bien d'accord
qu'il n'y a pas eu une bascule comme ça.
C'est...
D'autant plus que la révolution néolithique, on sait bien qu'elle s'est étalée.
On dit moins de
1000 ans, mais ça s'étale sur 2, 3 000 ans ou 4 000 ans selon les endroits du monde, bien entendu. Mais il n'empêche que, avec des décalages dans le temps, on a le même processus, en tout cas les mêmes tendances et les mêmes forces lourdes qui sont constatées dans toutes ces sociétés qui s'installent, qui se collectivisent. Bon. Donc, quel est le moteur de ça?
La recherche du bonheur.
Alors là, il dit pas le bonheur.
La qualité de vie.
Il dit pas non plus la qualité de vie, il dit la jouissance. Et là, on trouve des mots de notre ami Paul Ariès qui dit le capitalisme nous donne à jouir, mais je ne suis pas sûr que cette jouissance soit de bonne qualité. enfin, tout à fait, c'est des questions qui sont posées, ça, bien entendu, nous ne peut y répondre, mais ça me paraît une question. Qui est intéressante, nourrir de réflexion. C'est pas tellement, à ma connaissance, c'est pas tellement travaillé comme réflexion. On a des paléontologues qui nous expliquent si c'est passé ça, comme ça, mais quel est au niveau
spirituel,
ethnologique, quoi. Il y a un regard ethnologique. Alors, bon, l'ethnologie, elle existe. C'est un peu comme le phénomène anthropique. La physique existe parce qu'il m'est donné de constater les lois de la physique. Bon. Mais l'anthropologie existe à partir du moment où il m'est donné de constater effectivement les pratiques de telle et telle peuplade, à tel et tel endroit. Après, c'est de la paléontologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et faute d'avoir une observation in situ et restituable par les moyens de la connaissance actuelle, on ne peut faire que des suppositions. Mais c'est quand même une question extrêmement importante de dire comment se fait-il, qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, il n'y a pas une bascule, mais quelle est la force lente et lourde et longue qui s'est imposée à l'espèce humaine pour qu'elle quitte un mode de vie qu'elle avait depuis 200 000 ans pour un autre mode de vie, qu'elle se met petit à petit à appréhender et à construire, en mesure, patiemment comme ça pendant 10 000 ans, et puis depuis 200 ans, tout d'un coup, à l'accélérer à la vitesse grand V. Parce que la question qu'on peut se poser par rapport au fait générateur, à la cause ou la multitude de causes de changement de vie au néolithique, on se la pose aussi toujours, et là cette fois beaucoup plus près de nous et avec des possibilités de constatation anthropologique, l'anthropologie des sociétés modernes, sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, de façon mécanique, on va pouvoir le décrire. Les Anglais ont extrait du charbon de terre, et puis ensuite il y a eu la coulée au coq, on a fait de l'acier, et puis tout est parti de là, oui, mais pourquoi? Alors que, là aussi, alors, sans parler jusqu'au néolithique, mais en tout cas depuis les premières civilisations égyptiennes, c'est-à-dire au moins 5000 ans, jusqu'à la révolution industrielle en Angleterre en 1850, c'est-à-dire 7000 ans, il n'y a pas eu une évolution importante. Et le changement de niveau civilisationnel entre les Égyptiens du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, le premier millénaire plutôt, et puis la révolution industrielle 1850 en Angleterre, s'est pas passé énormément de choses. Il n'y a pas eu une. Que ce soit sur les trois indices de mesure de l'évolution civilisationnelle que sont la démographie, la consommation de ressources naturelles finies et le PIB, on peut après coup, a posteriori, et on l'a fait mesurer le PIB à l'époque de l'Empire romain, par exemple, ben, sur ces trois, si on fait les courbes, ces trois index, ils sont d'ailleurs tous homothétiques. Bon, eh bien, on a entre les premières civilisations égyptiennes et la révolution industrielle de 1850, on a une droite qui est pas loin de l'horizontale. C'est après que ça se cadre. Donc, les premières ruptures néolithiques, moins 10 000 ans, on ne sait pas pourquoi. Le motif profond, on sait comment. on sait le comment, on sait pas le pourquoi.
Ça correspond à la sédentarisation.
Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est bien de répéter parce que on travaille sur des concepts pas simples. Donc je pense que quand on les répète, ça permet aussi de mieux réfléchir. À défaut de la réponse, ce qu'on disait, c'est la révolution néolithique. On la décrit, et on va dire, il y a la révolution néolithique à 1000 ans parce que les hommes se sont sédentarisés, les hommes ont inventé l'agriculture, les hommes ont inventé l'élevage. Avant, ils étaient chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, ils prenaient, ils prenaient ce qu'il y avait dans les arbres, et ils allaient chercher le gibier qui était dans la forêt. Bon, on décrit ce qui s'est passé, mais pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé ? Et on en était là. Parce qu'on lisait ce paragraphe de Reagan où il nous dit que, une fois qu'on a admis sa théorie, que le processus économique actuel, mais aussi le processus économique qui est le même que celui qui a commencé à la révolution néolithique, ce processus économique ne fait que transformer des ressources naturelles de valeur, donc de basse entropie en déchets, sous forme de haute entropie. Là encore, c'est une constatation, mais il nous reste toujours à résoudre l'énigme du pourquoi d'un tel processus. Et il tente une explication, il nous dit, en fait, c'est un flux immatériel, que le flux matériel, on le décrit, mais il y a un flux immatériel, c'est la joie de vivre, the enjoyment of life, ce que d'autres penseurs, bon, je vais citer Paul Ariès, disent le désir de jouissance, qui n'existait pas là on ne sait pas. Ce qu'on disait aussi, c'est que l'anthropologie, elle existe depuis qu'on peut aller voir les gens, mais avant on ne peut faire que des hypothèses paléontologiques. Pourquoi ? Quelle est la motivation humaine qui a fait que on a changé une façon de vivre qu'on a expérimenté pendant 200 000 ans et qui fonctionnait, on savait que c'était durable, chasse, pêche, cueillette. Pourquoi ? Voilà. Donc, il y a apparemment quelque chose, non pas qui s'est passé, parce que comme dit Jacques, j'ai du mal. Bon, ben,
non, mais moi, je te comprends.
J'ai du mal avec. Si j'ai pas le petit état derrière, bon. Eh bien, comme dit Jacques, évidemment, la révolution néolithique ne s'est pas passée comme ça du jour au lendemain. Elle s'est. D'après ce qu'on peut savoir, hein, ça s'est étalé sur quelques milliers d'années. Si on prend un lieu de la Terre par rapport à un autre lieu de la Terre, ça s'est accéléré ensuite en 1850, enfin à l'époque de la révolution industrielle, où là aussi il y a eu des petites différences. Enfin, ça s'est quand même resserré, hein, sur quelques dizaines d'années, au lieu de s'étaler, ça s'est étalé sur quelques dizaines d'années selon les endroits du monde, alors que à l'époque néolithique, ça s'est étalé sur plusieurs milliers d'années, sur les endroits du monde. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours pour amener de l'anthropomorphisme dans l'analyse économique. Là-dessus, il y a des réflexions.
Moi, je me demande si elle est pertinente, en fait, la question du pourquoi, parce que comme on le dit, c'est un phénomène qui est tellement diffus. Que je pense pas qu'il y ait une réponse qui nous satisferait le sens. Je pense qu'on a une, c'est un peu une question de curiosité, mais que dans le fond, il n'y a pas vraiment une explication. Alors, qui va s'en dégager.
Il y a quand même une explication chez Engels. Ça.
Je suis désolé. Je pense que c'est la recherche du confort. En fait.
C'est, voilà, mais c'est au fait aussi le fait que les moyens de production, donc, quand tu parles de la période de pêche et de chasse, les moyens de production étaient collectifs. Sans que l'être humain en ait la conscience. C'était pas à lui, c'était à tout le monde. Voilà. Et à un moment donné, Engels explique que c'est devenu une gêne à l'évolution de la société. C'est-à-dire que si on voulait manger mieux, manger plus, il fallait s'organiser autrement. Et petit à petit, là aussi pas d'un seul coup, est arrivée la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire, il y en a un qui a dit, moi je me mets une barrière autour, et je commence avec
les enclosures.
La propriété.
Pardon ? Les enclosures.
Voilà.
La fin des communs. Il est arrivé qu'à partir du moment où l'homme s'est mis à ne plus bouger, parce qu'à partir du moment où
mais évidemment.
Voilà.
Non,
évidemment.
Mais alors, attendez, là on est.
L'un ou l'autre, tu vois.
Je rabâche. Mais là encore, on est dans l'explication de la constatation. On n'est pas dans la recherche de la cause.
D'accord.
Hein? C'est-à-dire, lorsque tu dis, ah ben oui, lorsqu'on était en chasse, pêche, cueillette, on était dans le bien commun collectif.
Voilà.
Hein? Tout était bien commun, tout était, tout appartenait à tout le monde. Bon, c'était la terre en tant que bien commun, la nature en tant que bien commun. On a commencé à faire des enclosures, donc on a inventé le concept de propriété privée, etc., etc., etc. Bon, oui, mais pourquoi ?
Je te dis, pour essayer de vivre mieux, quoi.
Ah, oui,
mais c'est bien ce que
c'est pas encore le pourquoi. C'est encore de l'explication. Le pourquoi, c'est dire vivre mieux, ça voudrait dire tant que j'étais chasseur-pêcheur-cueilleur, et je rappelle que ça a duré 200 000 ans. Sans problème. Et aujourd'hui, les paléontologues, certains paléontologues disent que c'était l'âge d'or. C'est-à-dire que lorsqu'on fait on fait des projections, des exégèses, on dit le chasseur, l'idéal de vie, du bonheur, c'est l'homme chasseur pêcheur cueilleur. Il y a des gens qui soutiennent ça. Bon. Et ah oui. Bon. Mais après, toi tu nous dis. Mais c'est très marxiste finalement. Bah, tu nous dis, finalement, le chasseur-pêcheur-cueilleur, pendant 200 000 ans, il était malheureux.
Non,
hein? Je termine.
Tu dis à ma place ce que je veux dire, non?
Tu diras après, tu notes bien tout ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Bien, ouais. Bon. En tout cas, il y a l'idée selon laquelle le chasseur-pêcheur-cueilleur était insatisfait. Il était insatisfait de sa façon de vivre et il avait envie de vivre autrement. Il avait envie de vivre mieux, de manger mieux, de que sais-je, de fabriquer des choses. Voilà. Bon. Il y avait donc une motivation. Et c'est de ça qu'on parle. Et alors, tu dis, ton prénom ?
Pierre.
Tu dis, je ne sais pas, c'est très intéressant ce que tu dis, je ne sais pas, c'est très pertinent de chercher à savoir ça. Bon, d'abord, ça peut être que des hypothèses, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas si c'est très pertinent, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est, bon. Moi, je crois que le problème, c'est. Tu as dit, sauf si on est curieux. Oh, tu as dit ça.
T'as dit non, que notre c'est que de la curiosité. Nous donne envie de trouver comme s'il y avait une raison unique, mais que.
Ah non, possible. non, mais on ne parle pas c'est de raison physique. On parle, est-ce que c'est justement intéressant ? Alors, pertinent, je ne sais pas si c'est pertinent. Qu'est-ce qui est pertinent ? À part rester dans son lit et pas bouger, rien n'est pertinent finalement. Non mais blague à part, ça me paraît inintéressant de réfléchir à savoir pourquoi, quelles sont les raisons, pas comment, mais quelles sont les raisons qui ont fait que.
Eh bien, par exemple, ça peut être un problème climatique à un moment donné qui a amené une famine.
Ouais, une grande souffrance. Ouais.
Et donc ils se sont dit merde. On est en train de crever de faim, je ne veux pas crever de faim l'année prochaine, je m'organise autrement, et petit à petit, je reste à un endroit. Voilà, c'est des choses comme ça. Petit à petit, on a amené des transformations. Mais il ne faut pas chercher. C'est une vue idéaliste que vous avez là, c'est pas une vue matérialiste.
Non, mais on n'a pas de vue là.
Ah si, 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 c'est tout à fait idéaliste. Comme,
non, j'ai dit, par opposition, on n'a pas de. Moi, je défends aucune thèse. On essaye de.
C'est un peu comme la poule et l'œuf, quoi. Qui a
oui,
créé.
Voilà, bon,
hein, c'est un peu pas la même question. La réponse, c'est les deux, mon capitaine. Moi. C'est toujours la réponse que je fais. Quoi. C'est une question, ça, c'est une question pour un marxiste nul. C'est une question qui a pas de sens, quoi. C'est pas comme ça que les choses évoluent. C'est plus complexe. Il y a eu certainement des tas de causes qui ont fait que l'homme s'est sédentarisé, etc. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu, alors je sais pas, j'imagine une sécheresse ou je sais pas quoi. Non, mais il y a sûrement eu des voilà.
Ok. Alors. on peut peut-être y consacrer, un petit peu de temps, hein. Parce qu'on est quand même, à mon avis, dans le sujet, puisqu'on est en train de voir comment est né le processus économique. Hein. Tant qu'on était chasseur que chasseur, on n'est pas le processus économique. Alors, un marxiste va peut-être nous dire le capitalisme commence au néolithique.
Bon. Mais compris,
non, à partir de l'appropriation des moyens.
Et il donne de la valeur à ce qu'il va faire.
Voilà.
Non, il va fait faire aux autres, autres, il vient pas faire.
Et puis avoir.
Là, c'est.
Alors.
Il va vouloir accumuler, alors, en effet, par sécurité, par ceci, par cela, sûrement au départ, mais après.
Oui. Tu nous. Jacques,
ouais.
Tu nous dis. Tu nous dis finalement on s'en fout de savoir. Encore une fois, c'est pas intéressant de savoir pourquoi on a changé de. Pourquoi en néolithique ça a changé. Sans doute qu'il y a des tas de raisons, on n'en sait rien, peut-être qu'il y a eu un changement climatique, peut-être qu'il y a eu une souffrance, Bon, mais bon, peu importe de savoir pourquoi, ce qu'il faut, c'est regarder un peu. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est intéressant. Ça veut pas dire quoi qu'il y ait des causes multiples, peut-être. J'ai pas dit qu'il y avait qu'une seule cause. Il y a possibilité de causes multiples, mais ça me paraît extrêmement intéressant de chercher à savoir pourquoi, même si on a peu de chances de trouver la réponse, est-ce qu'il y a une réponse? C'est un truc divin. Bref, je vous pose la question. Est-ce que cette réflexion, on va pas la faire, la développer aujourd'hui, mais est-ce que c'est une réflexion qui est intéressante? Est-ce que chercher vraiment la cause profonde du fait qu'il y a eu un changement, parce que est-ce que c'est intéressant ou c'est pas intéressant?
En fait, de mon point de vue, c'est on met le doigt sur un phénomène ou sur un changement, mais en fait, les changements sont constants. Dans les champs humains, il y a des changements tous les jours, en fait.
C'est quasi statique, en fait.
Il y a certains changements
microscopiques, mais à un moment, on se rend compte qu'on est passé d'un état A à un état B, mais en fait, il y a eu A1, A2, A3, A4, A1000, et il n'y a pas un point où il y a eu un déclenchement dans le cerveau de ces hommes-là. Pour moi, ça se fait de manière imperceptible au niveau temporel, quand même. Par des tout petits changements, au début, il y a eu une poule, puis après, il y a eu. Plus tard, deux poules.
D'accord.
Non, mais
que le changement ait été. Non, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Que le changement ait été très très lent. Pourquoi pas? Comme tu dis, microscopique, chaque année, pendant 200 000 ans, chaque année, il y a un petit changement. Oui, pourquoi pas? Bon. Mais qu'est-ce qui fait que il y a eu quand même un changement important à partir d'un certain moment? Et les gens se sont sentis sédentarisés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution-là?
Moi, je dirais la recherche de la moindre souffrance.
Ouais. Ça veut dire que pendant 200 000 ans, ils souffraient.
Bah oui, quelque part, bien sûr. Ah. Ils mourraient plus parce qu'il y a certains hivers qui étaient plus durs à passer et il y avait la motivation.
Ils vivaient quoi, 30 ans?
C'est pour ça aussi que la démographie augmentait pas beaucoup. Puisqu'il y a un hiver un peu rude, il y a la moitié de la famille qui mourrait. Quoi.
C'est pour ça que c'était viable, finalement.
Même les Québécois qui sont installés au Québec.
Donc tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire que si on a abandonné, alors, avec des très, 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 très lentes, si on a abandonné le système chasse, pêche, cueillette pour le système néolithique puis industriel, c'est parce qu'on cherchait à vivre mieux. Tout le monde est d'accord pour...
Oui, c'est...
Donc on est plus ou moins d'accord avec la théorie de Reagan.
cherche le plaisir.
Oui.
Voilà. Alors, quelqu'un qui cherche à jouir, qui cherche le plaisir, bon, il s'engage dans un certain nombre d'entreprises. Le problème, c'est de savoir s'il réussit. C'est comme la vocation de l'impôt, les taxes, la fiscalité comportementale. Elle vise un certain objectif. Est-ce qu'elle l'atteint vraiment? Enfin, bon, je ne sais pas si la comparaison est très bonne. Mais bon.
Les attentes surtout.
Les attentes.
Quelles sont les attentes?
On dit c'est vivre mieux. Hein. C'est vivre mieux. On veut vivre mieux. On veut.
Quel cahier des charges, quoi.
Oui, c'est vivre mieux. On veut se faire plus plaisir. Hein? Donc on déclenche les néolithiques avec des micros doucement. Ensuite on déclenche la révolution industrielle. On veut toujours le moteur, c'est on veut vivre mieux. On a l'air tous d'accord pour dire que c'est ça. C'est pas par hasard. Ça pourrait être le hasard aussi, pourquoi pas. Bref, on a l'impression de dire il y a quand même une volonté de l'homme de. Il se dit je vais faire ça parce que ça va être mieux. Il entreprend parce qu'il pense que ça va être mieux au bout.
Moi, je suis pas sûr. Mais...
Je ne sais pas s'il y a vraiment le terme de volonté qui était.
Alors, c'est pas une volonté, c'est quoi? C'est un hasard, c'est quoi?
Peut-être.
C'est un n'importe quoi. C'est
un test. Peut-être.
Un quoi?
Un test. Bah, nous, on fait pas des hypothèses, là, on teste des choses. Mm-hmm. On sait pas quelle est la réponse. On sait pas si on va avoir raison si on a la vérité. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, bah voilà. Moi personnellement, marcher toute la journée, ça me fatigue, je me posais là, puis on va regarder ce que ça donne. Qui c'est qui est avec moi? Et puis ils ont levé la main et puis ils se sont posés, quoi.
Si c'était sans arrêt des tests, ça irait dans tous les sens. Or là, on a quand même une trajectoire qui est
3000 ans, et c'est possible qu'il y ait tout plein de peuples qui l'aient testé et qui se soient dit au bout d'un moment, bah voilà, il y a un village là-bas, ça s'appelle comme ça, c'est des gens qui se regroupent et qui ne marchent plus. Ils ont appelé ça un village.
C'était pas le marcheur alors.
Et du coup, les gens ils sont curieux, ils disent bah, c'est bizarre de faire ça, pourquoi les gens ils ne marcheraient pas. Et puis bah, ils vont voir, et puis évidemment, il y en a qui disent bah, non, c'est n'importe quoi, je me casse. Et d'autres disent bah, finalement, c'est pas si mal, je vais peut-être rester pour le thé. Quoi. Et puis voilà. Peut-être que c'est juste un test, qu'il n'y a pas de volonté.
C'est tout le temps des tests. Ouais. Non, mais c'est une théorie qui peut être intéressante.
Toutes les expériences, de toute façon, tout ce qui est l'évolution, il n'y a toujours que des expériences. Que ce soit mécanique,
dans la tête d'un entrepreneur, il n'y a aucune raison qu'il anticipe que telle chose ira pour le mieux. Donc en effet, c'est un peu forcément une part de hasard au début, la première fois. Ouais.
Et c'est pas forcément un test en vue d'aller dans un état meilleur, c'est simplement peut-être un test parce qu'il a marre de marcher, quoi, qu'il a peut-être mal au pied. Quoi.
Peut-être le fait qu'il aille vers un état meilleur, c'est a posteriori, il se rend compte qu'il souffre moins qu'avant, et du coup, il continue comme ça.
Exactement.
Ou alors ils en avaient peut-être marre de souffrir, comme disait Pierre, ils se sont rendus compte que bah, au lieu de souffrir, et bah, en faisant ça et ça, bah, on vivait mieux et plus longtemps.
Donc des expériences.
Des expériences.
Oui. Alors, qu'il y ait un certain nombre d'expériences qui peuvent être variées, contradictoires, aller dans tous les très très différentes. Oui, mais est-ce que ces expériences ont toutes un objectif identique qui est de vivre mieux? Ou bien est-ce que ces expériences, c'est vous pour le plaisir de faire des expériences?
Après,
c'est ça que
je vais leur poser la question.
Après, directement, ils sont rendus compte.
Retour à l'arrière.
Donc, après, ça se dit, peut-être qu'après, comme tu disais, eux, ils vivent mieux que nous, pourquoi? Bon, on va voir ce qu'ils ont fait, et puis après, ils intègrent un groupe qui vit mieux qu'eux. Donc, le groupe qui vit moins bien, il délaisse ce qu'il faisait, et puis il va dans le groupe qui va.
Oui, donc là, on est dans la. Tu décris bien la théorie de la marche du progrès. Si on regarde les penseurs, les philosophes, les scientifiques qui ont réfléchi sur la problématique de la cause du progrès, il y en a assez peu qui parlent de cette théorie. À ma connaissance, il n'y en a pas qui disent le progrès c'est une succession de hasards. La majorité, effectivement. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais encore une fois, on fait pas un prêche là. La majorité explique, identifie comme cause principale du progrès de l'homme la recherche d'un état meilleur. de meilleures conditions de vie.
J'ai une hypothèse aussi, ça peut être aussi éventuellement pour les enfants, les nourrissons. Peut-être dans la forêt, quand on marche tous les jours, il y a beaucoup plus de mortalité infantile que lorsque on permet aux enfants d'être en sécurité, qu'il n'y a pas de loup ou d'ours qui va venir les bouffer dans une maison. Peut-être que, enfin, dans une cabane, quoi. Mm-hmm. Peut-être qu'ils se sont dit, bah, c'est pour protéger les enfants et qu'on reste, par exemple, à cet endroit-là pendant 3 mois, le temps qu'ils aient assez de force pour pouvoir marcher, quoi.
Oui, comme tu disais, une épidémie où ils étaient malades, donc ils ont été obligés peut-être de rester, puis ils ont vu que finalement ils ne vivaient pas plus mal en restant sur place, sans au départ avoir vraiment la notion obligatoirement de recherche du bonheur.
Le bonheur, il est pas prononcé. Hein.
Oui, en fait,
ouais, c'est se faire plaisir. Oui. Le plaisir et le bonheur, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Se faire plaisir et rechercher des conditions de vie plus agréables. Bon,
oui.
on va laisser pour l'instant de côté ce sujet.
En suspens.
Et on va revenir sur les considérations de Roegen concernant l'entropie. En réalité, c'est la loi de l'entropie qui explique pourquoi une machine, et même un organisme biologique, finit par s'user et doit être remplacée par une nouvelle machine. Ce qui signifie une ponction supplémentaire de basse entropie dans l'environnement. Donc lorsque je remplace une machine parce qu'elle s'est usée par une nouvelle machine, je fais une ponction supplémentaire de basse entropie dans l'environnement. Et le fait de puiser constamment dans les ressources naturelles n'est pas sans incidence sur l'histoire, il est même à long terme l'élément le plus important du destin de l'humanité.
Parce que les guerres aussi, il y a eu des guerres du coup justement pour s'approprier des territoires.
Oui, d'accord, mais au niveau du processus économique, le processus économique, s'il est symbolisé par la machine, hein, avant on avait la force des bras, ensuite on a les esclaves, ce que Jean Covici appelle les esclaves énergétiques. Esclaves énergétiques, ce sont des machines, une machine avec un carburant. Hein. Donc, le processus économique, c'est fabriquer une machine. Et donc, au départ, si on est, encore une fois, mécaniste, on schématise, hein. J'ai une machine, c'est formidable, je vais pouvoir faire marcher mon processus économique. Je me rends compte que la machine s'use. Donc, quand j'ai une machine, ça veut dire que je vais être assez rapidement obligé de la remplacer, je vais être amené à la remplacer par une autre machine. Et donc, ponctionner de nouveau de la basse entropie. Et il dit le fait de donc je puise constamment dans les ressources naturelles parce que si j'avais une machine qui ne s'usait pas, bon, j'aurais fait. Non, mais ça se saurait. Oui. Mais on étudie le processus économique. Donc, si j'avais une machine qui ne s'usait pas, j'aurais fabriqué au départ ma machine, et puis c'est formidable, elle continuerait sans arrêt. Et si je veux augmenter, je fabriquerai une deuxième machine. Mais une fois que j'ai ma machine, ça y est, je l'ai pour l'éternité. Or, elle s'use. Et donc, je ponctionne de nouveau dans la basse entropie. Et ce fait de puiser constamment dans les ressources naturelles, alors, n'est pas sans incidence sur l'histoire. Bon, c'est un euphémisme, puisqu'il dit que ce fait de puiser constamment dans les ressources naturelles est même à long terme l'élément le plus important du destin de l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, on va revenir aux chasseurs-pêcheurs-cueilleurs qui, eux, ne puisaient pas dans les ressources naturelles finies, puisqu'ils se contentaient de prendre l'excédent annuel qui était fabriqué par la nature, le fait de puiser constamment dans les ressources naturelles finies, c'est l'élément le plus important du destin de l'humanité. Bon, si on cherche à savoir quel est l'élément le plus important, quelle facture le plus important, Roegen nous dit le facture le plus important de notre destin, des paramètres qui vont conditionner ce qu'on va devenir, l'élément le plus important, c'est le fait qu'on puise en permanence dans les ressources naturelles. Bon, Reagan est littéralement, il ne le conteste pas, obsédé par la raréfaction des ressources naturelles. C'est son obsession. Mmh. Bon, voilà. Alors, encore une fois, c'est pas un prêche que je fais et que nous faisons. Là, on étudie ce que dit Reagan, c'est ce qu'il dit. Et on en débat, on en discute. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve que c'est intéressant, pas intéressant. Si on n'est pas d'accord, il faut dire pourquoi, parce qu'il argumente quand même. Donc si on n'est pas d'accord avec ça, il ne faut pas dire j'y crois pas, non, je ne le sens pas. Il faut dire non, je suis pas d'accord, et puis donner des arguments.
Alors l'argument, c'est que l'entropie, ça marche pour un système fermé. La Terre n'est pas un système fermé. De l'énergie, on en récupère, on l'a dit tout à l'heure.
Oui, mais on explique.
Non, mais par contre, moi je suis complètement d'accord que.
Non, mais si, c'est vrai. Justement, c'est un système fermé à l'échelle humaine.
On va trouver un système fermé.
C'est tout à fait. Ouais. C'est un système fermé à l'échelle humaine, puisque le rayonnement qu'on reçoit, en fait, et qui a créé le pétrole et qui a créé le charbon, il s'est fait sur des millions d'années, et nous, donc, à notre échelle, on l'a bouffé en très très peu de temps, et du coup, il ne pourra pas se régénérer. Quoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système fermé, la Terre, au sens
et il va se régénérer quand on ne le bouffera plus. Maintenant, on ne le bouffera plus, on pourra réfléchir pourquoi on ne le bouffera plus, soit on aura disparu.
Et voilà.
Là, la question, soit on aura trouvé une autre source d'énergie.
Ouais, voilà. Mais là, je pense que la question, c'est d'éviter qu'on crève. Quoi.
Je pense que oui.
Oui. Oui, alors non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ceux qui s'opposent à Reagan, ils sont peu nombreux. Hein. Mais, enfin, ceux qui s'opposent, je dirais, les arguments pris ici ou là, mm-hmm. qu'on trouve contre Reagan, c'est ceux-là. C'est de dire, mais Reagan, il parle comme si la Terre était dans un système effectivement fermé. Or, c'est pas vrai, parce que la Terre, elle reçoit de l'énergie solaire. Bon. Elle ne reçoit que de l'énergie solaire. Bon, c'est énorme, hein, mais en tout cas, au niveau de la matière, elle n'échange pas avec l'extérieur. Bon. Or, ce que...
Faut éviter d'annoncer des trucs comme ça, parce qu'il y a les rayonnements cosmiques, enfin, je pense qu'on récupère de la matière, et puis on... Enfin, si... T'as des météorites,
t'as ouais,
c'est
infinitésimal. Alors,
c'est clair.
Reagan le dit un peu plus loin.
C'est zéro, quoi.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de la matière, on reçoit quelques météorites, mm-hmm. mais c'est infinitésimal.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et puis au niveau de l'énergie.
Et on envoie des satellites.
Nous. On ne reçoit que de l'énergie solaire.
C'est
effectivement énorme. Mais on ne sait pas la récupérer.
Pour l'instant.
Oui.
Ça, c'est vrai.
Alors là, en fait, le seul coin qu'on peut mettre dans les affirmations de Reagan, c'est de dire, bon, on ne peut pas dire, lorsqu'il nous dit, la Terre ne reçoit pas de matière, sauf que quelques météorites. C'est-à-dire c'est infinitésimal, on ne peut pas dire le contraire. Lorsqu'il nous dit on reçoit une quantité énorme d'énergie solaire, mais on ne sait pas la récupérer, on ne peut pas dire le contraire. La seule chose qu'on peut dire, c'est mais peut-être qu'on saura la récupérer, l'énergie solaire.
Par exemple.
Pour dire ça. Alors, mais Reagan le dit aussi. C'est-à-dire qu'il dit tout ce que je dis là, c'est parce que, à ma connaissance,
voilà.
Hein, et aujourd'hui, on n'a pas avancé, à ma connaissance, on ne sait pas transformer l'énergie solaire directement
en
énergie mécanique sans passer par un capteur avec des minerais. Bon, on ne sait pas faire. Bon, alors, il dit si, il le dit ça, si on arrive, d'ailleurs c'est la seule... ouvert, parce que le discours de Reagan, on avait terminé un petit peu là-dessus la semaine dernière, le discours de Reagan, il est, disons, désespérant. C'est-à-dire que l'issue de notre processus industriel, c'est le zéro. Bon. la seule fenêtre possible, et il la donne, il dit, c'est si on arrive à utiliser l'énergie solaire, à la transformer directement en mouvement. Là, on peut... Alors, on n'aura toujours pas réglé le problème des minerais. Attention, parce que n'oublions pas que le processus industriel, c'est l'association de la matière et de l'énergie. Avec de l'énergie et pas de matière, on ne fait rien. On a une vie végétative. Ben, si on n'a que du soleil, l'énergie solaire, on a une vie végétative. Si on n'a que des minerais et pas d'énergie, ah ben ça c'est au début du néolithique. C'est-à-dire qu'on a des minerais, mais on peut les travailler à la force du poignet. Bon. Donc dans un cas ou comme dans l'autre, on ne peut pas développer un processus industriel, même limité, même rudimentaire. Il faut l'association des deux. Donc, si on arrive à utiliser l'énergie solaire, bon, effectivement, on aura là de l'énergie à profusion et pas limitée, mais on ne règle pas pour les minerais.
Un gramme de matière, comme dirait Einstein, lancé à la vitesse de la lumière, va te donner une énergie phénoménale qui te permettrait de vivre toute ta vie, quoi. Donc quand on sera capable de transformer de la matière directement en énergie, enfin quand on sera capable, je suis optimiste, si on est, voilà, si on est un jour capable de transformer directement la matière en énergie, moi je me souviens avoir posé cette question-là il y a une vingtaine d'années aux gens du CNRS qui m'ont répondu. La transformation de la matière en électricité, c'est direct, sans passer par la thermodynamique, ils m'ont répondu pas avant 50 ans. Je pense que je leur repose la question aujourd'hui, ils vont me dire la même chose. À mon avis, on n'a pas avancé sur le sujet. Puis on ne cherche pas, quoi.
C'est l'accélérateur de particules, le boson de Higgs, c'est ça?
Ben, peut-être, oui, peut-être.
Oui, alors, là, on parle de fabriquer de l'énergie. Là, on parle d'avoir de l'énergie.
Si tu veux donner du mouvement, c'est de l'énergie.
Non, mais,
j'ai du mal avec les écologistes, parce que je vais souvent discuter avec eux quand même. Pourtant, moi, je me suis aussi un écologiste, hein, mais pas forcément photovoltaïque. Je ne veux pas en entendre parler, je pense que c'est une véritable connerie. Mais par contre, le chauffage solaire, putain, mais c'est phénoménal, ça. Et là, il y a moyen de faire des économies d'énergie phénoménales. Bourrer les toits de machins photovoltaïques, mais le chauffage solaire.
Non, mais attends, on sort du sujet là.
Mais non, mais c'est l'énergie.
Non, mais.
Finalement, ça rebondit sur ce que tu disais par rapport à transformer l'énergie directement au soleil. Le soleil, l'énergie solaire agite les molécules d'eau.
Là, exactement, il y a une transformation directe.
Complètement.
L'utilisation directe des rayons.
On avait une centrale solaire thermique. Donc, il chauffait de l'eau pour ensuite l'utiliser. Oui, bien sûr, avec le rendement thermique pourri qu'il y a derrière. Mais on a été capable de faire ça. On a tout arrêté la recherche dans le domaine. C'est dommage, quoi.
Non, mais
on parlait de processus industriel vraiment. Je pense que ça.
Faire de l'électricité avec le solaire, que ce soit par la voie thermique ou par la voie photovoltaïque, on sait faire. Bon. On sait faire, mais on a deux problèmes et deux tailles. C'est que on a quand même un rendement assez faible, hein, et puis que on a besoin de matériaux finis pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut du silicium, du cadmium.
Non, pas pour le chauffage de l'eau.
Je parle des deux là, le photovoltaïque et le thermique. Pour le photovoltaïque, il faut faire des panneaux solaires, il faut donc du silicium, du cadmium, il faut les décontaminer. Bon. Et puis pour le thermique, il faut des poteaux en fer pour mettre les miroirs, et puis ça fait de l'électricité, et l'électricité, il faut la transporter avec des fils de cuivre, etc. Bon, donc, tous ces trucs-là, on sait faire, on sait les utiliser, on a deux problèmes. C'est un problème de rentabilité, hein, et puis un problème qu'on utilise des matériaux finis qui se dégradent, et quand il n'y a plus de. Si tu n'as pas de fil de cuivre, tu peux pas faire d'électricité. Bon, et tu ne peux pas le transporter. Tu peux la faire à un endroit et puis elle reste là où elle est. Bon. Ce dont parle Roentgen en termes de Prométhée 3, puisqu'on sait que Roentgen dit Prométhée 1, c'est la maîtrise du feu, Prométhée 2, c'est la machine à vapeur, parce qu'aujourd'hui, finalement, à part les barrages hydroélectriques au fil de l'eau, toute l'énergie qu'on fabrique, c'est on fait chauffer de l'eau.
Non, mais le moteur à explosion, c'est la machine à vapeur aussi.
Bon, c'est aussi tous les dispositifs aujourd'hui d'énergie, c'est la machine à vapeur, grosso modo, 98%. Bien. Prométhée 3, c'est transformer l'énergie solaire en mouvement. Voilà. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est de la magie. Bon, si on arrive à faire ça, effectivement, on a réglé, mais vraiment réglé, le problème de l'énergie. Hein? Puisque l'énergie solaire, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie inépuisable. On peut taper dedans autant qu'on veut, tout au moins à l'échelle humaine, on peut taper dedans. Puisque, on l'a dit avant que tu étais arrivé, le soleil, il est destiné à mourir et la Terre à mourir de froid. Donc, réchauffement climatique, un jour, ça va s'arrêter parce que ça va être le froid partout. Bon. Bref, on n'en est pas là, c'est pas à l'échelle humaine. Mais à l'échelle humaine, donc, voilà le truc. Donc, c'est ça que dit Roentgen. Lorsque on oppose à Roentgen, oui, mais attends, il oublie, il nous parle sans arrêt de sa thermodynamique et de son système clos, mais la Terre n'est pas un système clos, c'est un système semi-clos parce qu'elle échange de l'énergie solaire avec le Soleil. Oui, mais aujourd'hui, on ne sait pas utiliser l'énergie solaire directement. Alors, si. Et donc c'est la seule porte qui reste, enfin la seule porte qui reste pour Roentgen, hein, c'est la seule porte qui l'ouvre, voilà, si on peut prendre, on aura réglé pour de l'énergie, mais pas de la matière. La matière, il faudrait que on nous amène de la matière, du cosmos, qu'on nous en amène, ou bien qu'on arrive à la réussite. Alors, c'est vrai que si on a une énergie inépuisable et qui ne consomme pas de ressources finies au niveau de ces dispositifs de capture et d'utilisation, on va pouvoir recycler du cuivre, du fer, du machin avec l'énergie produite par le soleil. Bon. Donc on s'approche quand même du truc, mais on a toujours la dégradation entropique de la matière. Effectivement, c'est un constat désespérant, c'est un constat extrêmement difficile. Et il y a un moyen de s'en sortir qui est aujourd'hui proche de la magie, hein, mais on peut le décrire. On ne sait pas le faire, mais on peut le décrire. Voilà. Donc, quand il dit l'élément le plus important du destin de l'humanité, c'est qu'on puise constamment dans la basse entropie. Autrement dit, si on avait une machine qui ne s'usait pas, bon, le destin de l'humanité serait différent. Le destin de l'humanité est conditionné par l'usure. Bon, chose qui n'était absolument pas la problématique du chasseur-pêcheur-cueilleur, parce qu'il n'avait pas d'outils, donc il n'usait pas ses outils.
C'est pas non plus la problématique du capitaliste. Hein. Il s'en fout. Hein.
Ah, mais parce qu'il est mécaniste. Il est mécaniste. Il dit, c'est pas un problème, la machine, j'en ai une autre. Bon, le capitaliste, jusqu'à présent, a totalement ignoré la finitude des ressources. Il a ignoré la finitude. Hein. Et Marx ne l'a pas perçu. J'ai lu le Capital pour se farcir. Bon, mais la seule chose qu'il a perçu Marx, alors je ne vous ai pas amené le bouquin de John Foster Bellamy, parce que je suis contenté de rester sur Roentgen. Lorsqu'on fera ensuite, qu'on verra la thermodynamique dans les autres grandes théories économiques, et notamment le marxisme, on pourra en parler de Marx. La seule chose qu'il a vu Marx, il fallait déjà le voir en 1848, hein, c'était que l'industrialisation privait de retour à la terre les matières fécales. Et que les égouts, c'était une vaste connerie. Bon, en 1848, il fallait avoir le génie d'y penser. Qu'on allait avoir un déficit de matière organique avec l'urbanisation. Que l'urbanisation, entre autres externalités négatives qu'elle portait en elle, provoquait un déficit irréversible de matière organique par rapport à des pays où il y avait 98% de ruraux.
Est-ce que, tout à l'heure, tu as parlé d'entropie de la matière, du coup, c'était ça la quatrième loi de
thermodynamique
de Rogge.
Oui.
Qu'est-ce qu'il entend exactement par la dégradation de l'entropie de la matière?
On va y venir. On va y venir, hein. Ouais. Alors, j'ai extrait ce petit chapitre. Ce petit texte, le processus économique est solidement arrimé à une base matérielle qui est soumise à des contraintes bien précises. C'est à cause de ces contraintes que le processus économique comporte une évolution irrévocable à sens unique. Dans le monde économique actuel, seule la monnaie circule dans les deux sens, d'un secteur économique à l'autre, bien qu'en fait la monnaie métallique s'use lentement, de sorte que son stock doit être continuellement réapprovisionné par prélèvement dans les dépôts de minerais. Oui.
De la monnaie.
Non mais, alors, il y a beaucoup de choses. À la réflexion, il apparaît que les économistes des deux obédiences ont succombé au pire fétichisme économique qui soit, le fétichisme de la monnaie. Bon. Donc, le processus économique vu par Wagen, c'est-à-dire avec introduction des thermodynamiques, c'est un processus qui n'est pas réversible, et puisqu'il y a cette dégradation, c'est-à-dire que énergie, chaleur, travail ne peut pas récupérer la même quantité de chaleur, la chaleur ne peut pas récupérer la même quantité d'énergie au départ, alors que la monnaie, elle est réversible, rien n'a besoin. La monnaie, elle part, je te donne 1000 euros, tu me les rends. 1000 euros, et puis ça ne peut que tenir comme ça éternellement. Hein? Bon, la monnaie. Et donc, les économistes ont inventé la monnaie. C'est vrai? C'est les économistes qui ont inventé la monnaie? Si, quand même. Non, l'économiste. En herbe, à partir du moment où l'économie, où l'homme commence à échanger, et puis il veut simplifier. Avant, l'économie, c'est le troc. Le troc, c'est pas encore de l'économie. C'est de l'échange. T'échanges un produit contre un autre. L'économie devient économie à partir du moment où le troc est fluidifié par la monnaie. Bon, enfin, on peut.
L'origine, c'était par exemple le sel a été.
Non mais hein? C'est la monnaie. C'est la monnaie. Voilà. On peut situer. Alors, ça aussi, c'est intéressant. On a parlé de l'évolution néolithique qui est le début en fait du processus économique. Mais la science économique, en tant que des penseurs, des gens qui vont réfléchir à la circulation des biens. L'économie, c'est la circulation des biens. Ça apparaît avec la monnaie. On peut dire que tant qu'il n'y a pas de monnaie, on n'a pas de pensée économique. La pensée économique apparaît au moment où on commence à se dire il faudrait qu'on améliore un peu tout ça, il faudrait qu'on fluidifie nos échanges, et là il faut qu'on trouve quelque chose. Alors la monnaie, au départ, c'est un bien intermédiaire, c'est-à-dire le sel, le sucre, le blé. Et puis, après, plus commode, plus intéressant, les métaux précieux, l'or, l'argent, bon, c'est un bien intermédiaire. Alors, ce bien intermédiaire, il est réversible. C'est-à-dire que la monnaie, contrairement au processus économique, qui, lorsque je produis quelque chose, ben, je dégrade tout ce que je fais entrer dans la machine, je le dégrade. Même le produit, c'est un produit, mon produit fini, c'est de la haute entropie, tout ça ne tient pas à la haute, etc. Donc j'ai de la basse entropie, des trucs vachement stables, vachement pas dispersés et pas dissipés. Et puis je produis que des choses dispersées et dissipées. Mais la monnaie, elle, pas de problème. Hop, ça bouge pas. Sauf que c'est vrai que la monnaie en tant que bien intermédiaire, et notamment lorsque la monnaie se généralise sous forme de métal précieux, ben, ça se dégrade, ça s'use, puisque le manque de peau, c'est effectivement un minerai, c'est de la basse entropie, mais à force de circuler, elle s'use. Et donc, elle n'est pas complètement réversible. Et, bon, et c'est pour ça qu'on arrive à la monnaie de maintenant, qui est simplement le clavier informatique, c'est une ligne informatique, et là, par contre, elle ne s'use plus. Et on a aujourd'hui, chose qui n'est pas encore du Mondragon, puisqu'il est mort, enfin bon, il est mort en 95, et la généralisation de la monnaie dette, je dirais, ça a commencé à partir de 71-73 avec l'abandon de l'étalon or. L'abandon de l'étalon or. 71, Nixon abandonne l'étalon or. 73, en France, on a la loi sur la création monétaire par les banques privées. Bon, c'est le début. C'est le début de la monnaie unique aujourd'hui, qui est une monnaie totalement scripturale. Alors, bon, après, ça c'est débat sur la monnaie aussi. Bon, bah, pour l'instant, on va rester sûr. Oui, non mais on ne peut pas partir dans tous les sens. On va y venir, parce que, bon, évidemment, la monnaie. Mais c'est quand même assez remarquable que Reagan dise ça sur la monnaie à cette époque, c'est en 70. On ne se posait absolument pas cette question. Donc, il parle du fétichisme de la monnaie. En 70. Ça veut dire qu'on a... on ne veut pas voir le côté thermodynamique du processus économique avec sa dégradation. Et on est sur la théorie de la valeur, ben, toujours là aussi, le marxisme, hein. C'est-à-dire que, comme disent les ultralibéraux, moi j'ai eu beaucoup de débats avec des libertariens, des ultralibéraux, qui vous disent, mais la dégradation des ressources naturelles, la raréfaction des ressources naturelles, à laquelle d'ailleurs ils ne croient pas, enfin, bon, mais c'est, ils vous disent que c'est même pas un problème, parce que c'est réglé par l'argent, par la monnaie. On en a moins, mais ça coûte plus cher. Donc, voilà, il y en a moins, ça coûte plus cher, donc on s'adapte, et l'économie, la main invisible du marché, et l'économie s'auto-organise, hein, autour de la valeur. Alors, on est aux antipodes de Reagan. Reagan nous dit que l'économie s'organise autour de la disponibilité en ressources naturelles finies, et les libéraux, les ultralibéraux, ne vous inquiétez pas des ressources finies, l'économie s'organise autour de la valeur. Et on arrive aujourd'hui à des aberrations du type Rifkin, avec la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il nous dit, oubliez les ressources naturelles, hein, nous allons créer des ressources immatérielles. Le tertiaire va prendre le relais du primaire et du secondaire. Alors, pour rappel, le primaire, c'est l'agriculture, la production agricole. Le secondaire, c'est l'industrie, donc c'est les produits industriels. Et le tertiaire, c'est les services. Et des gens comme Rifkin, qui sont, j'allais dire pas n'importe qui, pour moi, c'est n'importe qui, enfin, c'est quand même un gars qui est invité par tous les gouvernements et qui fait payer ses journées à 5000 euros la journée, avec toute son équipe, logée en hôtel 5 étoiles.
Un pauvre gars, quoi.
En classe affaires. Bon, et il vient conseiller il vend des audits et des conférences. Et alors, je vous conseille, si vous voulez vraiment un exemple.
Tu nous conseilles de l'écouter, c'est ça?
Ah non, je vous conseille de lire La Troisième Révolution Industrielle. Faut l'avoir lu.
Ouais.
Faut l'avoir lu parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui repris de façon assez importante par tous ceux qui vont dire, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. pour la disparition, la raréfaction des ressources naturelles, nous avons la troisième révolution industrielle qui arrive, qui est en marche. Et c'est les services qui vont prendre le relais des ressources naturelles. Ne vous parlez pas de la fin du cobalt, de la fin du cuivre. Bon, nous allons créer des services.
Et c'est... En fait, je reviens pas qu'il se soit pas déjà pris un... quelqu'un qui lui dit faux dans les yeux, parce que c'est un... c'est comme un enfant qui fait une erreur.
Vous pouvez pas la bâcher. Vous pouvez pas. Mais, si,
Non, mais est-ce qu'il a conscience de dire des mensonges?
C'est un business. Bon,
c'était un peu disputé. Il disait dans le fond ça. Oui. Mais pour moi, ça tient 10 secondes dans un débat, quoi.
Oui, non, mais ton débat, tu ne pourras pas l'organiser. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont absolument pas. Mais on n'est pas dans le débat, on est dans le prêche et dans la vente d'une idée. Ces gens-là ne sont absolument pas demandeurs de débat. Ça ne les intéresse pas d'être contre.
Ce que je veux dire, c'est que c'est même dangereux, en fait. Et du coup, il y a, par exemple, Jean Covici, il devrait faire une lettre ouverte qui s'intitule Mensonge, quoi. Mensonge vérifié.
Oui, mais
Enfin, d'ailleurs,
elle existe. Les lettres existent, mais ce qui n'existe pas, c'est Rifkin qui est d'accord pour faire un débat avec Jean Covici. Ça, ça n'existe pas. Parce que. Voilà.
C'est, ça ne l'intéresse pas,
Ça ne l'intéresse pas. S'il intéresse. Bon, il a un discours qui marche et qui est vendeur.
Et puis qui est suivi.
Mais qui rassure, c'est
sûr. Non, puis qui est suivi par les.
Alors, voilà. Voilà.
Tous les pays.
Pourquoi est-ce que le discours Rifkin marche et que le discours Reagan ne marche pas?
Mais parce qu'il est rassurant, il ne fait pas poser de questions.
Parce que les gens n'ont pas envie qu'on leur dise que c'est mal barré.
C'est mal barré.
Et j'en préfère. Bon, si vous faites une conférence Rifkin qui va vous expliquer que malgré la surpopulation, malgré la fin du pétrole, malgré la dette, malgré tout ça, hein. Nous avons la troisième révolution industrielle et technologique de l'Internet et de l'intelligence artificielle qui va régler tout ça. Bon, il remplit les salles. Bon, si vous faites une conférence où vous allez expliquer que New Future est finalement à très court terme, vous n'avez personne qui vient.
Parce que les gens ont peur, alors ils ont besoin de comprendre, ou alors d'avoir qu'on leur dise que tout va bien, on pense à vous, quoi.
Non, je pense que l'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie des gens qui disent tout va mal, mais j'ai envie qu'on me dise. Non, c'est que les gens on croit les choses agréables et ils ne croient pas quand ce que vous dites c'est désagréable. Voilà, ça aussi, on parlait des tendances fortes de l'espèce humaine, et je pense que ça c'est une tendance forte, la preuve.
Mais pourtant, il n'y a pas besoin. Enfin, je veux dire, il y a. Enfin, je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent être aveugles à ce point-là. Je veux dire, on mange une pomme, et ben après, on sait qu'une fois qu'on l'a mangée, on l'a plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin.
Mais même gamin. Mais qui va vous dire qu'on va la créer, la pomme qu'on n'a plus, on va la créer par l'intelligence artificielle. Vous avez une puissance, vous avez aujourd'hui, qui est d'ailleurs alimentée par toute la technologie ambiante et par. Je dirais, alors, je ne vais pas dire le formatage des esprits des jeunes enfants, mais cette toute puissance de la technologie qui frappe les esprits. Les gens sont prêts à croire que la technologie va régler le problème en fait des ressources. C'est comment des scientifiques comme vous, comment peut-on confondre technologie et ressources naturelles? Eh bien si. La technologie va remplacer les ressources naturelles. Voilà. Bon. C'est un.
Alors c'est vrai qu'ils espèrent aussi aller sur la Lune ou Mars et tout pour ramener des minéraux et tout, entre autres.
Mais... Oh, il va pas jusqu'à. Il va...
Pas lui.
Ah non, alors ça.
Il y a des...
Non, mais.
J'aime bien ce dessin. Un mensonge qui rassure.
Ah ouais.
Tout le monde va dans cet endroit et une vérité qui dérange, personne n'y va.
Ouais, mais. Ouais. Je comprends pas comment à ce point-là ça doublait, quoi.
C'est la conférence. J'ai dit où il n'y a personne et la conférence où il y a du monde.
Ouais. C'est ce que je cherche.
Oui. Bah oui.
C'est ça. Voilà.
C'est un peu humain, comme ça.
Tout le monde y va, parce que les êtres
humains. Non, mais bon, alors. Nous, ici, moi, ce que je veux pas ici, c'est qu'on soit aussi dans un prêche inverse. On n'est pas dans le boulot que je vous propose, c'est pas un boulot de catéchisme et de prêche. On étudie ce que dit quelqu'un. Voilà, bon, Hegel dit ça. Et puis, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et encore une fois, si on n'est pas d'accord, il faut vous donner des arguments. Alors, autre phrase intéressante.
Et juste, j'aimerais, parce que ça m'a titillé, le problème de la pomme que tu disais, en l'occurrence, c'est pas un problème, hein, puisqu'elle est toujours là, sauf que par exemple, elle sera sous forme de matière fécale.
Oui.
Et tu l'as pas consommée au sens où tu mangerais du fer qui a disparu, elle est toujours là. Et tout ce qui est lié au végétal.
Ouais,
mais ce qui est lié au végétal, c'est pas la même, le même problème que les minéraux qui sont inertes, parce que l'arbre, il y a des cycles de vie, alors que les cycles de vie de minéraux, c'est sur les millions d'années. Quoi.
Voilà, c'est très important ce qu'il dit, parce que l'exemple, en fait, pas bon par rapport à ce qu'on disait de la pomme, il est bon pour les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Voilà, ils mangent la pomme se transformée en amendement organique, et ça,
c'est bouclé,
ça permet de continuer indéfiniment.
Alors que si sur du fer, par exemple, on passe dedans beaucoup trop vite par rapport à ça.
Et puis la pomme, tu ne l'as pas fabriquée. La pomme, tu l'as prise.
Mais le minéral, non, on l'a pas.
Oui, mais attends. La pomme, tu as pris de la pomme renouvelable. C'est-à-dire que tu as pris la pomme.
Elle est renouvelable sur l'échelle de temps.
Voilà.
Tu as pris la pomme que le pommier a produit. Cette année.
Oui, et donc il faut attendre quand même, ne serait-ce à l'échelle humaine, il va falloir attendre un an pour avoir ta pomme.
Oui.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Si t'as rien d'autre en un an,
oui, mais,
tu seras
oui,
chez
moi. Voilà. C'est le.
Mais oui, je suis d'accord.
C'est le système durable où on ne prend que le renouvelable dans la limite du renouvellement.
Voilà.
Alors, pour la pomme, tu peux pas prendre plus. Mais par exemple, pour le bois, tu peux prendre plus. Hein, si tu coupes tous les ans ce que la nature fabrique de bois, tu peux continuer tous les ans pareil. Si tu coupes plus,
ça va s'épuiser.
On va au-delà du renouvelable. Voilà. Donc ce système, ça conduit les intellectuels à surestimer et finalement à trop faire miroiter les pouvoirs de la science. Naturellement hissé sur un tel piédestal, nul ne pouvait même concevoir l'existence d'obstacles réels inhérents à la condition humaine. Alors, avant, il nous dit l'avalanche de découvertes scientifiques spectaculaires déclenchées par les nouveaux moyens techniques renforça cette admiration générale pour la puissance de la technologie. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la fascination, l'intérêt des gens à écouter quelque chose qui les rassure, va de pair avec la fascination grandissante des gens par rapport au discours scientifique. Alors il y a, je crois que c'est Jacques Ellul qui avait dit aujourd'hui les scientifiques ont remplacé les prêtres.
C'est clair.
Hein ?
Ouais, clairement.
Oui, voilà. Bon.
Les scientifiques ont remplacé les prêtres, le prêtre pendant des siècles. Ça a été celui qui donnait la connaissance, et c'était une connaissance qu'on ne discutait pas. C'était un prêche. C'est pas ce qu'on fait ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on soumet à la contradiction une assertion. Le prêtre ne soumet pas à la contradiction de ses oies une assertion. Il a celle d'une vérité qui est intégrée comme telle, comme un axiome, parce que c'est le prêtre qui la distille. Donc,
si on peut faire une différence avec les scientifiques, c'est vraiment que les scientifiques discutent entre eux et du coup, il y a une communauté scientifique qui du coup est en constant débat, alors qu'il n'y avait pas forcément ce cas-là chez les prêtres. Si on peut faire une distinction, peut-être.
Quand même.
Oui. Alors, je pense que c'est un terrain subtil, mais je pense qu'il faut qu'on discute de ça.
Ben, Alors. Mais c'est
vrai, en théorie. On est sur un point très important, on n'aura pas le temps de l'aborder, on le continuera. Il y a effectivement une translation de la croyance indéfectible qu'avaient les gens dans ce que disait le prêtre, dans ce que disent les scientifiques. C'est pas contestable. La parole scientifique aujourd'hui, c'est une parole de référence. C'est une parole qui a à peu près les mêmes effets sur l'imaginaire ou l'inconscient collectif qu'avait, qu'a eu pendant des siècles la parole des prêtres. Alors, toi, tu nous dis, oui, mais il y a une différence. C'est-à-dire que tu ne contestes pas le fait que.
Sur le réchauffement climatique, il y a quand même quelques milliers de scientifiques qui ne sont pas d'accord.
Non, mais.
Donc, ça veut dire qu'il y a du débat chez les scientifiques. C'est pas une religion. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Après, mais bon. Tu me parles de la religion capitaliste. Oui, ça, c'est une religion. Ça, c'est, je suis d'accord.
Ça, c'est intéressant.
Hein?
Non, ça, c'est intéressant.
Moi, je pense que la religion scientifique fait plus consensus.
La science en tant que religion.
Pardon ?
La science en tant que religion.
Enfin, bon, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'effectivement, pour moi, dans la science, il n'y a pas une certitude.
Non, là, on parle de la façon dont les gens la perçoivent. Dont les gens la perçoivent.
Ok. Oui.
Hein? Lorsque Ellul dit aujourd'hui les scientifiques ont remplacé les prêtres,
d'accord. Okay,
hein? Ça veut dire les gens croient ce que disent les scientifiques de la même façon, c'est de même nature que la façon dont les gens croyaient les prêtres. Il y a ça, et puis il y a aussi, il assimile les deux types de croyances, mais il assimile aussi les deux types de prêches. C'est-à-dire que le curé disait la vérité, qui était une vérité divine, et aujourd'hui le scientifique dit la vérité, qui est la vérité, bon, pas divine, qui est la vérité d'une autre divinité, qui est la science, en général. Bon. Et là, effectivement, le débat s'arrête pas là, parce que, on va dire, et c'est ce que tu dis, c'est pas de même nature, les gars. Pas de même nature, parce que le curé, lui, il allait demander en haut quelles étaient les instructions, il disait hop, il a envoyé la parole divine. Là, il nous dit, oui, mais ce que nous disent les prêtres, c'est un truc beaucoup plus construit, enfin, c'est le résultat de concertation, etc. Bon, donc, comment ?
Tu as dit ce que nous disent les prêtres, je pense que tu veux dire les scientifiques.
J'ai dit les prêtres. Et lui, les scientifiques, c'est ce que nous disent les scientifiques, c'est pas pareil, c'est pas une parole divine, c'est pas quelque chose qu'ils ont été chercher chez un dieu scientifique, par exemple, hein. Il y aurait le dieu de la science. Hein. Bon, non, c'est issu, alors c'est très matérialiste, hein, c'est très, très rationaliste, c'est issu, en fait, de débats entre scientifiques, avec des lois qui sont prouvées, etc., etc. Bon, ça, effectivement, c'est un deuxième niveau, on ne conteste pas bon. Et donc, le débat, il est-ce que l'adhésion des gens à la parole scientifique est une religion?
Oui, c'est d'accord.
Voilà, c'est un débat. Qu'est-ce qu'on en pense? Et puis, est-ce que la parole scientifique, c'est une parole qui est, qui est neutre, qui est vraie? Est-ce qu'il y a une science dure, une science molle? Est-ce qu'il y a une science qu'on ne peut pas contester? Est-ce qu'il y en a une qu'on peut contester? Hein? Bon, donc, il y a rien qu'en en lançant ces deux ou trois questions, on voit que
le parallèle qu'on
alors,
peut faire entre
ça, à mon avis, ça peut faire l'objet d'un séminaire sur une année.
Hein? Bon. Le parallèle, c'est que le prêtre, à l'époque, donc les gens étaient ignorants, c'était le latin, donc ils n'avaient pas le savoir, donc plus ou moins le prêtre disait la vérité. Mais quand on parle maintenant des scientifiques, nous, le commun des mortels qui ne sommes pas scientifiques, et bon, on a tendance un peu à avoir la parole magique, la parole du scientifique qui parle et qui sait tout.
Non, mais j'ai compris.
Tu vois ce que je veux dire?
Voilà. Voilà quelque chose.
Mais c'est pas comme ça dans la réalité. Même les matheux, il y a des écoles différentes qui s'opposent en mathématiques.
Il y a quand même plus de gens qui savent lire les sciences que de gens qui savent lire le latin.
Voilà. Alors,
oui, mais.
Je suis pas sûr que ce soit plus accessible pour eux.
Voilà.
Puis est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que ça le soit?
Parce que même si t'es scientifique, t'es pas spécialisé.
Là, je pose la question de l'école. Hein.
Tu vois. Alors, en disant ça, le Reugen ne lance pas ce débat-là. Ce débat qu'on est en train de... Ce débat qu'on est en train de poser l'énoncé...
Au jeune à réfléchir.
Ce débat dont on est en train de poser l'énoncé, c'est pas vraiment
tout à fait
ce que soulève Reugen, mais nous, de fil en aiguille, on le débusque et on dit là, il y a rien. Non, il nous dit, enfin, c'est très proche, mais une chose sensiblement différente. Il nous dit que hissé sur un tel piédestal, bon, là, c'est là dans les mains de scientifiques. On ne peut pas concevoir l'existence d'obstacles réels inhérents à les conditions humaines. Ça veut dire que, aujourd'hui, le discours scientifique, qui a des facettes diverses, il a un plus petit commun dénominateur, qui est de dire il n'y a plus d'obstacles. Et Reugen nous dit que la croyance essentielle, la croyance la plus importante, la croyance primordiale que les gens retirent de cette religion scientifique, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles. Donc ce discours scientifique, qui a une connotation religieuse ou pas dans le débat, ce discours scientifique pour Reugen, ce qui est important, c'est qu'il dit aux gens... La science va tout régler. Donc, c'est une chose différente de dire les gens aujourd'hui croient ce que disent les scientifiques. C'est une chose différente de dire aujourd'hui les gens croient que la science va tout régler. Donc, il y a là une convergence avec la foi religieuse. La foi religieuse, elle règle tout. Elle règle le problème de l'angoisse existentielle. Elle règle le problème de l'au-delà. Et c'est en partie pour ça que les gens croient. Ben, bref, autre débat. Ça sera pour une autre année. Bon, mais la croyance en la science, c'est avant tout, d'après Reugen, la croyance dans la puissance de la science. Et donc, dans ce cadre-là, elle remplace la puissance divine, la puissance de la science de régler le problème. Le transhumanisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'homme augmenté. C'est ni plus ni moins la recherche de l'immortalité divine avec de la science. C'est plus le paradis quand je serai mort, c'est le paradis sur Terre maintenant.
C'est quand même
avec un neurodisque, avec des mandibules augmentées, etc. Grosso modo, c'est ça. Bon, donc la science acquiert, a tendance, en tout cas, il y a une branche de la science qui l'affirme haut et fort, d'essence divine. C'est-à-dire qu'elle va régler des aspirations divines de l'être humain de manière scientifique. Et donc, Reugen, avant même, bien sûr, qu'on ait ces trucs d'IA, d'intelligence artificielle partout, les hommes augmentés, il nous dit, cette science que je vois aujourd'hui, elle vise à ce que l'homme ne puisse plus concevoir d'obstacles réels inhérents à sa condition humaine. Alors, du coup, ça va bien au-delà, des ressources naturelles, puisque c'est non seulement le processus économique, qui n'a plus de problème, parce que la technologie va régler. Tout. Ne vous inquiétez pas, les scientifiques y travaillent, il n'y a plus de pétrole, mais on va trouver autre chose, il n'y a plus de minerai, mais on va trouver autre chose, et puis vous allez mourir, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez plus, on va trouver autre chose, vous êtes bête, ne vous inquiétez plus, vous allez devenir intelligent, etc. La science. Voilà, bon, et on est. Bon, je force très bien à peine.
Oui, c'est vrai.
À peine. Donc, c'est plus qu'une croyance dans une science qui est vraie ou pas vraie, le consensus que c'est vrai, c'est surtout les gens misent, ils misent sur la science pour.
Mais même dans la vie de tous les jours, et même nous-mêmes qui sommes des néo-décroissants, on a déjà en nous, depuis l'enfance. Ah,
c'est vrai.
Parce que même
on a été
simplement la médecine déjà, c'est partie de ça la médecine.
Alors moi je mets un nom à ça, j'appelle ça le péché d'orgueil. Un péché qui peut être, un péché souvent c'est mortel. Hein. Vous faites un gros péché, vous en enlevez pas. Mm.
Ça c'est judéo-chrétien, je connais pas bien.
C'est pas marxiste.
Non.
C'est vrai.
Mais non. C'est comme ça, je sais
pas. On peut enlever le mot péché.
D'accord.
Donc, excès.
Complètement. Non, je peux comprendre.
Mais en fait, cette vision des choses, elle est vraiment ancrée chez chacun d'entre nous, mis à part.
Et j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Pour ce qui est de la santé, tu disais.
Oui, la médecine, par exemple, c'est carrément de la science. C'est carrément de la science.
Oui, non, mais tu peux avoir une approche de la santé.
La médecine, la science.
C'est pas de la science. C'est pas de la science, la médecine.
Bah, c'est pas considéré comme une science. Hein.
Ah non, et puis c'est pas de la science. C'est pas des scientifiques, les médecins. Enfin, il y en a quelques-uns.
Mais... Je sais pas si ce médecin est scientifique, mais je veux dire la médecine en tant que telle.
Bah, c'est du essai erreur, de toute façon, la médecine.
Bah, la science aussi.
C'est...
Du essai erreur, enfin, un médecin, il a pas l'air de chaque coup.
C'est une science molle.
Voilà.
Très et bien. Alors, les sciences dures, les sciences molles. Les sciences dures. C'est mon avis, puis vous me dites si vous êtes pas d'accord. Les sciences dures, c'est les sciences que personne ne conteste. Par exemple, la loi de Newton, personne ne la conteste.
Si, Einstein. Non. Ah ben, il la met en cause. Enfin bon,
il y a un domaine de validité. Hein.
Voilà, bon, voilà.
Le théorème de Pythagore, personne ne le conteste.
Ouais,
le théorème de Thalès, personne ne le conteste. Bon, science dure, on peut dire la science est dure, le théorème est dur, particulièrement où personne ne le conteste plus. C'est mou à partir du moment où on conteste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui contestent.
En fait, à l'intérieur même de certaines sciences, il va y avoir des choses incontestées.
Oui,
et il y a des choses
contestées. Et la médecine, typiquement, c'est un entrelacs de choses qui font consensus et d'autres pas du tout.
Mais à partir du moment où, dans une discipline, on a des lois qui ne sont pas contestées et des lois qui sont contestées, cette discipline devient une science molle.
Bon, mais là, en mathématiques, il y a des lois contestées. Donc,
assez peu. Alors, quelle est la loi mathématique qui est contestée? Qu'est-ce que ça veut dire contester? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens vivants qui contestent. Alors, aujourd'hui, en mathématiques, qui conteste quel théorème?
Dans les mathématiques stochastiques, j'ai pas tout compris, mais le prof à un moment nous a dit bon là, il y a deux écoles hein, qui s'opposent et on n'a pas encore résolu quoi. Bon moi j'ai pas.
C'est plutôt des différences d'approche, ça peut être ce que vous dites est faux. C'est plutôt qu'ils sont en désaccord sur la meilleure manière
de résoudre le problème. Ouais, je sais pas. Enfin bon, manifestement, il y a.
Oui.
Là, j'ai découvert ça.
Deux façons de démontrer. Deux approches pour le démontrer, pour démontrer la validité du théorème.
Oui.
Deux démonstrations possibles.
Je sais pas quel point. Oui, par exemple.
Ouais.
Il y a des bon.
Bon, par contre, que ce soit une science dure ou molle, de toute façon, la médecine aujourd'hui, ça fait partie. Je pense que ça fait partie de.
Des sciences molles.
Peu importe, oui, mais en tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles on a, la plupart d'entre nous se sont bâtis et considèrent que la médecine va résoudre. Par exemple, quand on est malade, on va se soigner. On fait confiance à la médecine pour qu'elle nous soigne plutôt. Ensuite, quand on vieillit, on va acheter des crèmes pour pas avoir trop de rides. On va faire des choses comme ça. On va.
Ah vous ? Mais non, il faut.
On va terminer.
Il faut être heureux. Pour vivre tranquillement, si tu veux.
Non, mais je veux dire, on a quand même peur de la vie finalement. Hein. On se repose sur la science pour prolonger cette vie, quoi.